Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir et bienvenue sur cette libre antenne qui est plus que jamais la vôtre jusqu'à 1h du matin. La journée est terminée, la soirée s'est installée. C'est l'heure du recul, du calme et des confidences. Venez me rejoindre pour parler de la vie, de votre vie, de toutes ces choses qui nous font avancer ou reculer selon les jours et selon notre capacité à les appréhender. Venez me rejoindre dans le présent de cette soirée pour vous désencombrer de votre passé et libérer votre avenir. Car très souvent, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui qui nous désespère. C'est l'amertume qu'engendrent les regrets d'hier, ajoutée à la crainte de ce qui pourrait arriver demain. Soyons donc ici et maintenant, en ce samedi soir, et prenez la parole en appelant le 3921. Amandine et Hassan sont prêts, ils sont là, prêts à recevoir vos appels et à me les transférer. Venez me parler des belles et des moins belles choses de votre vie, et ensemble, voyons comment vous pouvez avancer. 3921 donc pour nous appeler, et pour participer par SMS, envoyez un mot de soutien à celui ou celle que vous écoutez. Suggérez une piste, une idée, partagez une expérience ou simplement entrez en contact. Vous faites le 7-39-21 en pensant bien à commencer par le mot nuit. Fabrice Fougeroux est aux commandes ce soir. La libre antenne, ça commence donc maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et on va ouvrir cette libre antenne ce soir en faisant la connaissance de Jean-Olivier qui se reconstruit après être sorti de prison. Il va nous raconter ce qui lui est arrivé dans un instant. Et c'est donc avec vous, Jean-Olivier, que j'ouvre cette libre antenne de ce samedi soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci beaucoup d'avoir pris mon appel.
Alors dites-moi un petit peu, racontez-moi tout ce qui vous est arrivé. J'ai l'impression que votre vie a été mouvementée.
Très mouvementée.
Oui.
Bah, à la base, j'étais paxé avec la mère de ma fille. Et vu que depuis 7 ans, à l'époque, ça allait pas trop bien, j'ai fait la connaissance d'une autre femme. Voilà, donc elle-même avait deux filles. Je l'ai sortie un petit peu du pétrin dans lequel elle était, dans le Pas-de-Calais.
Laquelle, pardon, la femme avec qui vous étiez paxé ou l'autre?
Non, l'autre.
D'accord.
Je l'ai sortie du pétrin, je lui ai soldé ses dettes, je lui ai payé les chèques en bois qu'elle faisait. Voilà, voilà. Mais problème est qu'après, mon ex-femme ne me laissait pas voir ma fille.
Donc vous êtes séparé d'elle quand vous avez rencontré l'autre, la nouvelle personne?
En 2009, oui, tout à fait. Et donc en 2012, je me suis mis en colère, je suis allé devant chez elle, je les ai menacés, elle et son nouveau compagnon. Et donc, ils ont porté plainte à la gendarmerie. La gendarmerie a fait une perquisition chez moi, cherchant des armes.
Attendez, que je comprenne bien l'histoire, vous les avez menacés de quoi? Vous êtes allé jusqu'où dans vos menaces?
De leur casser la gueule, de les tuer, carrément.
Oui, vous étiez très en colère.
Très, très en colère.
Et la petite avait quel âge à ce moment-là?
Elle avait... Donc, quand j'ai quitté sa mère en 2009, elle avait 10 ans. Et donc, trois ans après, elle en avait 13.
Et pourquoi est-ce que votre ex-femme ne voulait pas vous laisser la voir?
Ben, elle ne voulait pas qu'elle vienne chez moi voir ma nouvelle compagne et ses filles, enfin, voilà.
Vous n'aviez jamais été violent jusque-là?
Pas violent verbalement, certainement, oui.
Agressif?
Oui.
C'est votre façon à vous d'exprimer un malaise?
Bah, c'est ce que j'ai compris par la suite, oui.
Ok, donc ce soir-là, vous voulez menacer de mort, et ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe?
Bah, perquisition des gendarmes, et vol de bijoux.
C'est-à-dire, on retrouve chez vous des bijoux volés?
Non, c'est les gendarmes qui m'ont volé des bijoux.
Quoi?
Oui, tout à fait.
Ouais. Comment vous en êtes rendu compte?
Plusieurs jours après, on voulait se fiancer avec ma nouvelle compagne, donc on chercher ses bijoux pour qu'elle puisse les mettre et on ne les retrouvait plus.
Et oui, et dans quel but ils auraient fait ça, les gendarmes ?
Bah, je n'en sais rien, moi. Je ne sais toujours pas.
D'accord, donc qu'est-ce qui s'est passé après ?
Bah, j'ai porté plainte contre eux.
Oui.
Grosse erreur. Ça fait que 10 jours après, moi je n'étais pas à la maison, je voulais créer une entreprise dans le Pas-de-Calais, parce que ici j'habite en Alsace, pour préciser. Certains de ces gendarmes sont revenus parce que je ne répondais pas à certaines convocations. Et en fait, ce qui s'est passé, ben, ils ont replacé les bijoux à la maison et puis d'un coup, ils ont réapparu. Voilà.
Et vous les avez vus faire ça ?
Non, c'est mon ex-compagne qui les a vus. Enfin, qui ne l'a pas vraiment vu, puisque bon, ils se sont débrouillés pour que ça ne se voit pas. Mais la façon de faire, déjà, ils rentrent chez moi, ils me cherchent moi, donc ils n'avaient pas à fouiller. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand ils sont partis, ils ont dit à ma compagne de les suivre pour signer le procès-verbal à la gendarmerie. Ensuite, faisant demi-tour au bout de la rue, ils ré-rentrent chez moi et là, d'un coup, les bijoux réapparaissent. Je trouve ça bizarre.
Ok, qu'est-ce qui s'est passé après alors ?
Ben, ensuite, j'ai eu droit au harcèlement des gendarmes. Hein. Ils m'ont accusé de vol de papiers administratifs dans leurs locaux. J'ai été giflé, jeté à terre, insulté. Dans la gendarmerie. Donc ça s'est fini, au tribunal pour dénonciation calomnieuse, menace de mort envers mon ex-femme. Et évidemment, j'ai pas fait le poids. Je voulais m'exprimer. Quand je voulais m'exprimer, on m'a menotté. On m'a pas laissé parler, en fait.
Vous n'avez pas eu d'avocat ?
Si, si. Mais bon, ça a servi à rien. Donc là, j'avais été condamné à du sursis.
Donc combien de prison avec sursis à ce moment-là ?
2 ans. Et donc j'étais contraint à un suivi judiciaire, que je n'ai pas fait.
Ça consistait en quoi, ce suivi judiciaire ?
Des convocations à un espèce d'éducateur, ça s'appelle le SPIP,
oui.
Que j'ai pas répondu. J'ai ensuite, en septembre 2013, la condamnation est tombée le 13 décembre. Donc là, je me suis... Du tribunal, on m'a... Parce qu'en fait, j'étais arrêté le 14 novembre. Donc, ils voulaient faire une procédure rapide, ce que j'ai refusé pour préparer ma défense. Et pour prendre un avocat, donc j'ai passé déjà un mois du 14 novembre au 13 décembre en prison. Et donc, le 13 décembre, donc j'ai été jugé, condamné. Il devait être minuit et demi en pleine nuit. Et vu que j'avais obtenu du sursis, et ben je me suis retrouvé devant la prison, dehors. Ils m'ont dit, vous pouvez y aller dehors, devant la prison, sans argent, sans téléphone, sans rien du tout.
Ouais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été au rendez-vous quand vous demandez d'honorer ?
En fait, j'étais dans le Pas-de-Calais. Et entre-temps, ma nouvelle compagne m'a quitté par SMS. Et ne me faisait pas suivre mon courrier. Voilà.
Donc quoi, ça veut dire que vous ne saviez pas que vous étiez convoqué ?
Tout à fait. Et le 20 janvier 2014, rendant visite à mon ex-compagne, évidemment, je me suis retrouvé en face des gendarmes.
Laquelle ex-compagne, du coup ?
La mère de
votre
fille ?
La deuxième. Hein.
Non, la deuxième. La deuxième.
Pourquoi, donc, le 20... pourquoi, oui. Pourquoi évidemment en face des gendarmes ? J'ai du mal à suivre là.
Apparemment, ils ont dû faire une ronde et puis ils ont vu ma voiture et voilà, ils ont fait le lien et donc voilà.
Pourquoi vous étiez recherché ou vous aviez interdiction de l'approcher ?
Non, recherché.
Recherché.
Évidemment.
Et donc ça vous est pas venu à l'esprit avant d'y aller qu'éventuellement c'était dangereux de mettre votre voiture là ?
Pas du tout.
Non.
Je m'y attendais pas.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ?
Le 20 janvier, ils m'ont pris direction la gendarmerie, puis direction la prison. Mais donc, ils ont fait sauter le sursis, et voilà.
Et là, vous en avez pris pour combien de temps ?
Un an.
Ferme.
Un an. J'ai fait 9 mois avec le mois que j'avais déjà fait, et les remises de peine.
Comment est-ce que vous avez vécu cette incarcération ?
Très mal. Très mal, dont une tentative de suicide.
Oui.
Malgré le suivi psychologique, où j'allais toutes les semaines.
Comment ça se passe une fois qu'on est à l'intérieur de ces murs-là ?
Difficile à dire. C'est compliqué.
On vous enlève tout déjà à l'entrée ?
Pardon ?
On vous enlève tous toute affaire personnelle à l'entrée ?
Tout à fait, tout. Tout, tout, tout.
Et ensuite, on vous a mis avec quelqu'un ou vous étiez seul dans une cellule ?
Non, j'étais pas seul. J'étais toujours à deux.
Toujours à deux.
Mais donc confronté à des gens que... j'avais 49 ans à l'époque, quand même. Je connaissais pas le milieu. Ouais. Donc, compliqué.
Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre ?
Le fait d'être privé de liberté. Et le fait de s'en sentir, condamné à tort.
Vous avez parlé d'un suivi psychologique ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces rendez-vous-là ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Le fait de pouvoir parler.
Vous avez compris des choses ?
Certaines choses, oui. Oui.
Quoi, par exemple ?
J'ai beaucoup lu, alors. Pour... Pour être libre dans ma tête. Et j'ai lu Freud, j'ai lu Lacan, Bergson...
Et ça vous intéressait avant, ça, ou pas du tout ? Ça a été une découverte ?
Pas du tout. J'avais fait de la philo à l'époque en terminale, mais ça ne m'avait pas trop branché.
Ouais. Et qui est-ce qui vous a ouvert à ça, alors, en prison ?
La psychiatre.
Ah, d'accord.
Donc, j'ai lu pas mal de bouquins. J'ai fait une capacité en droit.
Ouais.
J'ai fait du sport. Et donc, cette dernière compagne venait quand même me voir au parloir toutes les semaines.
Et est-ce que pendant ce temps-là, vous avez eu des nouvelles de votre fille et de votre ancienne compagne ?
J'ai eu un courrier.
De qui ?
C'est tout.
De qui ?
De la petite.
Et qu'est-ce qu'elle vous disait ?
Elle disait que je devais tenir le coup, que ça allait passer.
D'accord. Donc, elle vous a soutenu quand même ?
Oui, quand même. Quand même.
Donc vous avez profité, si je puis dire, de ce temps-là pour vous reconstruire en prison, pour lire, travailler en thérapie.
Voilà.
Et quand vous êtes sorti, alors, comment ça s'est passé ?
Pareil, je me suis retrouvé dans ma maison, tout seul, abandonné de tous.
Mais du jour au lendemain, c'est brutal aussi la sortie, finalement.
Ouais, surtout que ce que je n'ai pas dit... C'est que donc incarcéré en janvier, mon père est alors décédé en février. On ne m'a pas laissé aller à l'enterrement. 4 mois plus tard, c'est ma mère qui est décédée. Toujours refus du juge d'assister à l'enterrement.
Pour quelle raison est-ce qu'on vous interdit ça ? Vous n'êtes pas un grand criminel quand même ?
Justement pas, mais je pense que c'est le fait que je me suis plus ou moins caché pendant un an.
Ah oui, c'est
ce qu'ils disent. Voilà, donc ils avaient peur que je m'évade.
Vous étiez sous haute surveillance, là, du coup, oui, forcément.
Bah, haute surveillance, oui ou non. Hein.
Ouais, enfin, vu, oui.
Je suis pas un méchant. j'ai jamais frappé personne. Je suis petit, pas costaud. Donc ça a été pareil. Et le jour du décès de ma mère, c'est là que j'ai tenté de me suicider.
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Bah, j'ai pris un drap et j'ai essayé de me pendre au barreau.
Et comment on vous a sauvé ?
C'est mon compagnon de cellule.
Alors, comment est-ce que vous avez reconstruit votre vie en sortant de prison ?
Bon, je me suis inscrit à la NPE, j'ai fait toutes les démarches. Mais, en fait, j'étais comptable à la base. J'avais été licencié en 2005 et ensuite j'avais fait de très belles missions chez Adecco. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais retourner chez Adecco, ils vont me trouver du travail. Mais pas du tout, à cause de mon casier judiciaire.
On vous le demandait à chaque fois ?
Voilà. Non seulement ça, puis après ça a été l'âge. Trop vieux. Parce que quand on dépasse la cinquantaine, c'est compliqué de retrouver du travail.
Jean-Olivier, si vous le voulez bien, on va faire une courte pause.
Oui.
Vous ne bougez pas et je vous récupère juste après la pub. D'accord ?
D'accord, merci beaucoup.
Merci à vous, à tout de suite. Jean-Olivier, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Oui, avant de parler de travail ou de choses matérielles, je me demandais quand même ce que ça vous a apporté, toutes ces lectures et ce suivi thérapeutique. Qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre quand vous êtes sorti, sur vous ?
J'ai compris, entre autres, d'où venait cette colère que j'avais en moi.
Et elle vient d'où ?
Donc j'ai perdu mes parents donc quand j'étais incarcéré. Et lors de la succession chez le notaire, mon père m'avait laissé un courrier. Et dans ce courrier, j'ai appris que, en fait, ma mère n'était pas ma mère biologique.
Mmh. C'était
allô ?
Je réfléchis, c'était qui cette femme alors ?
Moi, je croyais toujours que c'était ma mère.
Elle vous a adopté ou c'était la fille de votre... Vous étiez le fils de votre père ?
J'étais le fils de la maîtresse de mon père.
Ah oui, donc situation compliquée.
Qui, elle, est décédée lors de son accouchement, en fait.
D'accord. Et ça, on ne vous l'avait jamais dit ?
Non.
Et vous avez compris que vous le saviez intrinsèquement, sans le savoir vraiment, vous le sentiez, vous pensez ?
Je sentais parce que je me suis rappelé ensuite, parce que j'ai fait une psychanalyse, hein. Pas en prison, mais j'ai fait un suivi psychologique ensuite, toujours avec la même psychiatre de la prison.
Qui a pu vous prendre encore après la sortie ?
Tout à fait.
Ça, c'est bien, ça.
Dans un CMP, oui. Mm. Et donc, je me suis souvenu, effectivement, que dans ma jeunesse, je disais toujours à ma mère, est-ce que je suis vraiment ton fils ou pas ?
Ouais, c'est fou, vous le sentiez. Hein.
Mais ma mère m'a longtemps maltraité. Elle m'enfermait parfois dans un placard pendant des heures.
Et donc ça aussi, ça a engendré beaucoup de colère, forcément.
Oui, tout à fait.
Vous avez emmagasiné tout ça en étant petit.
Oui.
Et c'est ressorti plus tard.
Exactement.
Mais alors d'avoir compris ça, ça vous a permis d'avancer ?
Aujourd'hui, oui. Mmh. Mais je suis quand même resté donc de 2015 jusqu'à là, en mai 2018, complètement recroquillé sur moi-même, renfermé chez moi, je ne sortais plus.
Oui.
Et je ne sais pas, en mai 2018, j'ai une cousine qui n'arrêtait pas d'envoyer des messages à ma fille sur Facebook demandant de mes nouvelles. Et ça, ma fille m'a ensuite poussé pour reprendre contact, ce que j'ai fait.
Oui.
Bon, la dame, ma cousine ne m'a pas reconnue. La première fois qu'elle m'a vue, j'avais les cheveux très longs, une barbe jusqu'à par terre, enfin bref. Et donc aussi, grâce à ma fille, quoi.
Qu'est-ce que ça vous a amené, ce contact qui est revenu, là, ce morceau de famille ?
Toujours à la recherche de renseignements sur celle qui fut ma mère, et puis de savoir ce qui s'était passé, mais en fait, ils n'étaient pas au courant, non plus. J'ai dû m'adresser à l'hôpital civil de Strasbourg pour avoir certaines informations.
Donc maintenant, vous savez.
Oui, je sais.
Vous avez reconstitué votre histoire.
Je sais qui était ma maman, oui, effectivement.
Mais c'est important.
Et donc, j'avais même hérité de l'appartement de mes parents, que je n'avais pas remis les pieds depuis 4 ans, vu que ma voiture, je l'avais aussi laissée chez moi sur le parking, et les clés de cet appartement étaient dans la voiture.
Comment vous avez fait, alors ?
Bah, écoutez, en général, j'ouvrais à personne, et puis là, je dis... Quelqu'un sonne à ma porte, me dit « Monsieur, vous voulez pas vendre voiture ? Vous vous rendez compte dans l'état où elle est ? J'aimerais bien l'acheter. » Et grâce à ce monsieur, on a réussi à rouvrir ma voiture. J'ai récupéré les clés de l'appartement. J'ai vendu ma voiture à ce monsieur qui m'a gentiment proposé de refaire tout mon jardin. Parce qu'évidemment, c'est devenu une forêt vierge. Mmh. Donc voilà, et puis donc vendredi, je suis retourné à l'appartement de mes parents, j'ai vidé la boîte aux lettres qui était pleine à craquer. Et autre surprise, je tombe sur une lettre adressée à mon père, ou du moins à la famille, provenant d'Amsterdam. Et c'est une dame qui m'écrit, recherchant son père et me donnant tellement de détails que j'ai tout de suite reconnu...
Le vôtre ?
Le mien, exactement.
Donc vous avez découvert une demi-sœur ?
Tout à fait.
Et vous êtes en contact aujourd'hui ?
Bah écoutez, comme j'ai pas Internet encore à la maison, je vais l'avoir d'ici peu. Je suis allé dans un cybercafé, comme elle a laissé son adresse mail, je lui ai envoyé un message. Je voulais retourner aujourd'hui au cybercafé, mais c'était fermé. Donc, comme elle m'avait laissé une enveloppe réponse avec son adresse, ben, je lui ai écrit aujourd'hui, éventuellement qu'on puisse se rencontrer.
D'accord. Et votre vie aujourd'hui, Jean-Olivier, elle ressemble à quoi ?
Ben, aujourd'hui, j'ai pas... Disons que physiquement, j'ai repris le dessus. Je suis beaucoup moins fatigué. J'avais jamais perdu espoir. Mais c'est ma volonté qui a été anéantie, disons. Et depuis que je revois un peu plus ma fille, elle a passé une semaine chez moi à la maison. Pour réviser ses cours tranquillement.
Ah, ça, c'est du bonheur.
Tout à fait.
Non.
Je suis très content. Elle fait un master RH. Elle fait ça en alternance à la SNCF. Bon, je recevais toujours encore ses bulletins, hein, tout au long. Hein. Donc, une très bonne élève. Je suis très fier.
Ah, j'imagine. Et vous pouvez être fier de vous aussi, Jean-Olivier. Vous voyez, on vient de recevoir un SMS d'Yvan qui nous dit « Il faut être fort pour sortir debout de cet enfer de la prison. »
Oui.
Et vous êtes debout et vivant.
C'est vrai. C'est vrai.
Est-ce que vous avez retrouvé du travail ?
Écoutez, en fait, à l'époque, j'avais monté une société avec des gens du Pas-de-Calais. Mais... les problèmes s'accumulant. En 2014, les clients ne payaient plus. Donc, on s'est retrouvé quand même dans une situation scabreuse. j'avais quand même fait, enfin, j'avais versé sur un compte courant d'associé 45 000 euros. J'avais pris des parts dans la société. Et en prison, j'ai signé un document que j'aurais peut-être pas dû signer, qu'on appelle un abandon de compte courant d'associé.
Non, mais sans refaire tout l'historique, Jean-Olivier, aujourd'hui, vous en êtes où, de ce côté-là?
Aujourd'hui, le 12 janvier, donc le week-end prochain, j'ai une assemblée générale extraordinaire, parce que ces gens-là, en fait, ce sont des escrocs.
D'accord, donc il y a une affaire en cours. Ce que je voulais dire, c'est que vous n'avez pas pour l'instant retrouvé de travail.
Non.
D'accord, là vous me parlez d'une affaire en cours avec cette ancienne société, c'est autre chose.
Avec l'argent que m'ont laissé mes parents, plus une petite partie du RSA, parce qu'on ne me verse que 134 euros, vu que je suis propriétaire de mon logement, j'ai encore un peu d'argent sur mes comptes. Tout ça, ça a été déduit, mais bon, avec le placement que j'ai fait, ça me rapporte environ 300 euros, plus les 134 euros, bon, ça me fait environ 500 euros. Ça me permet de vivre.
Vous arrivez à vivre avec ça.
Et je comptais sur ces gens-là pour travailler dans cette société, mais je vois que c'est un petit peu problématique.
Pourquoi est-ce que vous m'appelez ce soir, Jean-Olivier? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider?
Allô?
Oui, je dis, pourquoi est-ce que vous m'appelez ce soir? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider?
Je vous entends très mal.
Ah, moi, je vous entends très bien.
Oui.
Vous m'entendez, là?
Mais je perds pas espoir, hein. Je cherche du travail. Hein. Je vais finir par trouver.
Je vous disais, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ce soir, moi? Ou qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour vous?
Ah, là, je vous en vends vraiment très, 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 très loin.
Bah, écoutez, on va être obligé de se séparer, parce que si... je sais plus quoi faire, là.
Ah, c'est mieux.
Vous m'entendez?
C'est mieux, Oui, tout à fait, là je vous entends très bien.
Je vous repose la question pour la quatrième fois.
Oui.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour vous aider?
Écoutez, moi je tenais à témoigner que après un passage en prison, après quelques années de dépression, je pense que seule la volonté et l'aide de cette psychiatre, l'aide de ma fille, on arrive finalement quand même à relever la tête, doucement mais sûrement.
Oui.
Je vous signale aussi que je n'ai jamais pris de médicaments.
Comment vous avez tenu, Alain?
Je ne sais pas.
Vous parlez de volonté, la volonté, l'espoir?
Voilà.
Et puis j'ai l'impression que votre fille joue un rôle important dans tout ça. D'être fière d'elle aujourd'hui, c'est une force aussi. Hein.
Je suis très fière d'elle, c'est vrai.
Et que ce contact ait pu se renouer malgré sa maman?
Oui. Oui, oui.
Et j'irai malgré la prison, ça veut dire qu'elle ne vous a pas jugé non plus, cette jeune fille?
Tout à fait.
Elle vous aime suffisamment pour ne pas vous juger?
Ben, je sens quand même que quelque part, elle m'en veut d'avoir quitté sa mère.
Oui, mais ça, c'est le propre de tous les enfants divorcés. Hein.
Oui.
Forcément.
Bon, elle a quand même 20 ans aujourd'hui. Hein.
Oui, mais ça reste une enfant divorcée.
Oui,
c'est, pas
oui.
C'est pas une question d'âge, ça, qu'elle vous en veuille, malheureusement, c'est normal.
Oui, oui. Oui. Je suis déjà content qu'on ait pu renouer.
Et c'est ça qui est formidable dans votre histoire, bien sûr.
Oui, oui, oui.
Elle est un petit peu une lumière qui éclaire votre chemin aussi.
Exactement.
Et puis c'est important d'avoir ce rôle de père pour elle, parce qu'à 20 ans, on a toujours besoin de son papa, mais à 20 ans, quand on commence sa vie d'adulte, on a besoin de s'appuyer aussi sur quelqu'un. Ces échanges qu'elle a avec vous doivent être importants pour elle aussi.
Oui, oui.
Ça, c'est déjà très positif.
Moi, je l'ai toujours dit, hein, je serai toujours là pour toi. Hein, je veux dire, je la soutiens financièrement, je donne tout ce que je peux.
On a un autre message pour vous quelqu'un qui vous souhaite une très bonne année et qui vous dit plein de courage.
Merci beaucoup.
Est-ce que si des gens souhaitent entrer en contact avec vous, vous permettez qu'on vous donne leurs coordonnées?
Il n'y a aucun souci.
Hassan va s'occuper de ça dans la soirée. Si quelqu'un souhaite entrer en contact avec vous pour une raison ou pour une autre, entamer des conversations, peut-être échanger des expériences, à ce moment-là, on se permettra de vous transmettre leur numéro, d'accord?
Je voulais réagir par rapport au monsieur qui vous a appelé hier soir,
qui dormait dans sa voiture.
Qui était atteint du sida.
Oui.
et qui avait perdu tous ses amis, enfin qu'on a carrément laissé tomber, quoi.
Frédéric, c'est ça ? Oui, Frédéric.
Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, mmh. Oui, oui. Bah, c'est ce qui m'est arrivé, hein, une fois que j'étais en prison, ça y est. Malgré tous les gens que j'ai, aidés, le jour où on se retrouve soi-même dans la nuise, eh ben, on se rend compte qu'il n'y a plus personne.
Oui. Et vous savez qu'hier, on a eu plus de 20 personnes qui ont téléphoné pour Frédéric et qui ont souhaité entrer en contact avec lui. Il est absolument débordé depuis hier.
Ben, tant mieux, je suis content pour lui.
Il gère son nouveau planning d'amis, enfin d'amis de relations pour l'instant, mais c'est plutôt sympa de savoir que c'est une grande famille à Libre Antenne comme ça. Et que des
exactement.
Contacts se font. Un jour, on fera peut-être, vous savez, le côté que sont-ils devenus ? Tous ceux qui se sont rencontrés sur la Libre Antenne, ça pourrait être sympa un jour de
incroyable.
Raconter ça.
Ouais. Moi, je vous écoute depuis très, 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 très longtemps. J'écoutais déjà Caroline Dublanche à l'époque.
Ben, c'est gentil.
Voilà.
Merci de votre appel, peut-être, Jean-Olivier.
C'est peut-être aussi grâce à vous que je m'en suis sorti à force d'écouter les gens, à force de vous écouter, vous, les bons conseils. Ça y fait.
Eh bien, j'espère. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Bravo,
mais de rien.
Bravo pour ce parcours. Merci pour ce témoignage. Je vous embrasse.
D'accord.
Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et puis, on va garder vos coordonnées pour vous transmettre les numéros des gens qui souhaiteraient entrer en contact avec vous. D'accord ?
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je vous remercie.
Au revoir.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Et nous allons faire maintenant la connaissance de Chryslaine. Bonsoir à vous, Chryslaine.
Bonsoir.
Bienvenue sur cette Libre Antenne.
Merci. Je vous écoute depuis des années.
Bon, on a plein de fidèles.
Caroline Dublanche aussi.
Bon. Alors, racontez-moi un petit peu.
Alors, je vous appelle parce que ma fille majeure a été hospitalisée en psychiatrie. Elle est peut-être bipolaire ou schizophrène, ils ne savent pas trop. Et c'est la deuxième fois qu'elle fugue d'une unité fermée. Et là, on est à sa recherche. Donc, bah, la police, la recherche, la police, et je ne sais pas ce que moi je peux faire de plus.
Alors, racontez-moi un peu son histoire à cette fille. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Elle a pris une plante qui s'appelle l'ayahuasca. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Et elle a eu une révélation. Elle était persuadée d'avoir été violée par son père lorsqu'elle était nourrisson.
C'est quoi ? C'est une plante qui comprend pour faire une espèce de séance genre chamaniste ou des choses comme
oui,
ça ?
Oui, voilà, c'est ça. D'accord. C'est sous contrôle d'un chaman, normalement.
Oui, c'est ça. Oui.
Voilà, c'est ça. Elle a toujours été plus ou moins mal dans sa peau. Et elle cherchait une raison à son mal-être. Et en 2016, elle m'a appelée au secours en me racontant cette histoire. Donc je suis allée la chercher.
Où ça ?
Elle était partie à Berlin, voilà. Elle part souvent comme ça. Donc je suis allée la chercher, je l'ai récupérée chez moi pendant 10 jours. Il faut savoir que on est séparés avec son papa.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Vous êtes séparés, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui a pu avoir lieu ?
Non.
Non.
Enfin, surtout nourrisson, c'est surtout ça. Je me dis, j'aurais pas pu ne pas le voir. Enfin, voilà, non. Franchement, non.
D'accord.
Je ne pense pas. Et je l'ai récupérée, j'ai vécu 10 jours avec elle et effectivement, elle avait plutôt des symptômes de bipolaire. Elle était un coup, elle parlait beaucoup et puis l'instant d'après, elle pouvait être très dépressive et elle voulait, enfin j'étais son martyr en fait. Et elle voulait que je souffre autant qu'elle avait souffert depuis sa naissance. Enfin voilà, j'étais responsable de tout et tout ça. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du soutien parce qu'elle était majeure et qu'elle ne voulait pas aller voir un médecin. Aucun médecin voulait venir me voir non plus à la maison. Du coup, j'ai réussi à avoir des urgences psychiatriques. Ils m'ont demandé de la mettre dans une ambulance et de l'emmener à l'hôpital. Mais il fallait qu'elle soit d'accord.
Oui, c'est ça.
Donc, ben, je l'ai prise au réveil, en fait. Et elle est partie. Comme c'était pas son domicile, elle a été transférée dans un hôpital dans la région parisienne. Et là, elle est restée 3 mois avec un traitement pour bipolaire.
Donc, elle a été officiellement diagnostiquée bipolaire?
Alors, non, parce que elle est sortie et elle devait passer dans un centre expert qui devait diagnostiquer si elle était schizophrène ou bipolaire. Et donc, elle est sortie au mois de janvier. Elle est allée chez son père pendant ce temps-là. Elle prenait son traitement apparemment, mais bon, il ne surveillait pas trop. Elle sortait, puis au bout d'un mois, elle a disparu. Donc, comme on voyait ses relevés de compte, on a su où elle était. Et donc, elle était partie en Asie. Et elle ne nous a pas parlé ou nous envoyé des mails, nous insultant. Enfin, c'était des choses très difficiles à entendre pour une maman. Mmh. Et pendant un an et demi, elle allait de pays en pays jusqu'au jour où on a eu les relevés de compte, donc on ne savait plus du tout où elle était. Et un jour, elle m'a appelée au secours. Elle me disait qu'elle avait perdu son âme. Enfin, c'était très confus. Mmh. Et j'ai réussi à la convaincre de revenir en France quand même.
Mais vous parlez de relevés de compte. Comment est-ce qu'elle a vécu pendant cette période-là?
Eh bien, quand elle était à l'hôpital, elle avait... L'assistante sociale avait fait le nécessaire pour qu'elle ait le RSA. Ouais. Et dans ces pays-là, je pense que la vie n'est pas très chère et qu'on peut s'en sortir largement.
D'accord.
Et puis, elle avait des économies aussi, un petit peu. Donc, voilà. Donc, de Thaïlande, moi, je me suis effondrée à ce moment-là. Et... J'étais incapable d'aller la chercher à l'aéroport. Donc, j'avais déclaré une disparition inquiétante déjà à l'époque.
Donc, vous étiez quand même soulagée de savoir qu'elle était en vie.
Oui, déjà, c'était... Oui, c'était...
C'est déjà la base.
Mais hein. Après, je me suis effondrée parce qu'elle m'envoyait plein de messages. Voilà, donc, j'ai fait une dépression. Là, je voulais aller arrêter le traitement, mais... comme l'histoire n'est pas finie.
Qu'est-ce qu'elle vous disait dans ses messages?
C'était très, très... comment dire?
Confus?
Pas forcément. C'était très intellectuel. C'est une gamine très brillante à l'école. Elle a toujours eu de très bons résultats. Elle est artiste, un peu artiste. Elle est très douée. Faudrait que j'arrive à vous en retrouver un parce que c'est vrai que j'ai essayé d'évacuer parce que c'était tellement...
Mais dans l'idée, c'était quoi? C'était des accusations, des reproches?
C'était des accusations, des reproches par rapport... en fait, quand elle a été hospitalisée la première fois, c'est le médecin qui l'a hospitalisée, c'était pas sous contrainte. Et donc, elle me dit que le fait de l'avoir fait vivre cette vie à l'HP, que c'était très grave. Si seulement tu avais eu conscience de la gravité de ton acte, tu me fais tellement de mal et tu légitimises tout ça en disant que c'est moi le problème. Tu es vraiment une mère ignoble. Allez hop, ça va aller raconter tout ça au médecin comme une belle petite traître. Enfin, c'était terrible.
Oui. Mais en même temps, elle vous appelle au secours.
Oui, elle m'appelle au secours. Mmh. Mais elle était à l'HP à ce moment-là déjà. Et quand j'allais là, j'y suis allée, mais j'étais pas assez forte. Parce que ça a duré avant qu'elle soit hospitalisée. Elle avait déjà perdu le contact avec tous ses amis. Et elle me disait tout ce qu'elle vivait. Et c'était terrible.
Mais attendez, j'ai perdu le fil là. Elle rentre de Thaïlande comment? Et comment est-ce qu'elle passe en HP directement?
Ah ben non, son père l'a excusez-moi, c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses. Son père l'a récupéré, Il l'a emmené à la maison. Et le lendemain matin, il est allé travailler, mais il s'est absenté 2 heures. Il s'est absenté 2 heures et elle avait à nouveau disparu. Donc, on a à nouveau appelé la police pour déclarer une disparition inquiétante. Ils ont fini par la retrouver à Londres. Elle était partie à Londres, c'était très compliqué. Et elle voulait revenir en France. Enfin, voilà, il y a eu plein d'échanges avec la police. Et finalement, elle est revenue. Son père a appelé les pompiers qui l'ont emmenée aux urgences. Aux urgences, ben, une demi-heure après, j'avais encore des messages. En fait, elle s'était échappée des urgences. Au bout de 2 heures, elle est revenue chez son père qui a de nouveau rappelé les pompiers. Et cette fois, elle a été hospitalisée à nouveau. Ça, c'était au mois de mai. Et ben, elle a été hospitalisée jusqu'au mois de d'août. Au mois d'août, elle est sortie. Elle est allée chez son père. Elle faisait rien. De toute façon, elle était incapable de... Moi, elle ne veut plus me parler.
Mais il est au courant, son père, des soi-disant révélations qu'elle aurait eues en séance de
journalisme? Ah oui, bien sûr, elle lui a dit.
Et alors?
Ah ben, il lui a dit... Je ne sais pas comment il se défend, en fait. Il ne parle pas beaucoup, donc je ne sais pas exactement quelle vie il mène. Voilà, je suis partie, elle avait 17 ans. Et donc, voilà. Puis on en a parlé avec les psychiatres à l'hôpital, hein, on en a parlé avec elle. Et puis, en revenant de Thaïlande, elle voulait que je vienne la tuer physiquement, parce que je l'avais tuée physiquement.
Oui, ce sont des crises de délire.
C'était terrible.
Et donc, vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle s'est échappée de la psychiatrie, de l'HP, alors qu'elle était en secteur fermé.
Oui.
Comment c'est possible? C'est parce que c'est extrêmement verrouillé. Voilà,
hein. Oui, non, mais c'est la deuxième fois, là. Hein. Là, j'attends, je ne sais pas, on ne sait pas où aller. Elle a été hospitalisée du mois d'août au mois d'octobre. Elle est ressortie au mois d'août. Le 31 octobre, elle y est retournée. Le 1er novembre, elle est retournée début octobre. Et le 31 octobre, on m'appelle pour me dire qu'elle était partie, alors qu'elle était en unité fermée. Et ils m'ont expliqué qu'en fait... Il l'avait laissé sortir pour aller dans un atelier qui se trouvait à côté.
Oui.
Elle était en groupe dans une salle et elle a demandé à aller aux toilettes et elle est partie. Et ils s'en sont aperçus que 3 heures après.
Oui, donc elle était loin déjà, évidemment.
Donc elle était loin.
Elle est partie sans rien, parce que quand on est
elle
en HP,
oui, c'est ça. Sans papier, sans argent, sans téléphone, sans rien, sans affaires.
Oui.
Et donc on a déclaré la disparition inquiétante et on a averti tous ses anciens amis, voilà, excusez-moi. Et on a fini par la retrouver au 16e étage de la tour où on habitait quand elle était petite.
Qui est-ce qui vous a prévenu?
Eh ben, c'est un ami à elle qui l'a vue et qui a appelé son frère.
Mais au 16e étage, prête à sauter?
Ah ben, j'ai pas réussi à savoir. Je sais pas. Mais apparemment, elle avait déjà été aperçue et elle était passée par l'échelle sur le côté.
Eh ben. Christine, on va devoir dans quelques instants faire une pause pour le point info.
Oui.
Si vous voulez bien vous patienter, je vous récupère juste après les informations, d'accord?
D'accord.
Et vous me raconterez la suite de cette histoire.
Ok.
Merci beaucoup. À tout de suite.
À tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
direct encore jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez donc continuer à nous appeler au 39 21 si vous souhaitez prendre la parole, si vous souhaitez venir sur cette antenne, me parler de vous et de votre vie. Amandine et Hassan sont toujours disponibles pour vous accueillir au standard avec beaucoup de bienveillance, comme à leur habitude. Si vous souhaitez participer à l'émission par SMS, je vous rappelle que vous faites le 7 39 21 en pensant bien à commencer par le Mouni. Oui, c'est ça, je l'ai bien dit dans le bon sens.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et on va reprendre notre conversation, Chrislaine.
Ok.
Donc vous me disiez que la dernière fois, elle s'est échappée une première fois parce qu'il y a eu un espace de liberté, en fait, pendant cet atelier, elle a réussi à partir.
Oui.
Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, donc, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait, mais elle est allée chez un ami, mais elle est partie. Elle a dormi dans le métro, enfin, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait.
Jusqu'à ce qu'on vous prévienne en vous disant qu'elle était dans cet immeuble.
Voilà. Mmh. Donc, elle a été à nouveau hospitalisée. Elle est partie le 31 octobre, on l'a retrouvée le 11 novembre. Donc, c'était des jours, c'était très long.
J'imagine.
Mais on était un peu dans l'action parce qu'on en parlait autour de nous et... Et là, ça a recommencé. Le 31 décembre au soir, on m'a appelé pour me dire que ma fille avait quitté l'établissement encore, en unité fermée.
Et là, comment ça a été possible?
Eh bien, ils lui ont donné l'autorisation de sortir dans le parc. Sauf que le parc n'est pas fermé.
Oui, donc c'est un secteur fermé avec des trous, hein.
Ah oui, donc en fait, ça faisait plusieurs jours, d'après ce qu'ils m'ont dit. Après, ils me disent peut-être pas tout, je sais pas, qu'elle sortait dans le parc et qu'elle revenait toujours. Mais comme elle est très maligne, elle a pu faire ça pour leur donner confiance. Mmh. Et le 31, ben c'est pareil. Alors, ils m'ont appelé vers 19h. Je leur ai demandé depuis quand elle était dans le parc. C'était depuis 15h30 quand même.
Et ça les a pas inquiétés plus que ça?
Ben, je pense que le 31 décembre, je pense qu'il y avait moins de monde, moins de personnel, j'en sais rien.
Oui, ils étaient occupés.
Je sais pas. Ouais. Ouais. Et du coup, ben voilà, ça recommence. Donc, j'attends l'issue, je ne sais pas ce qui va se passer.
Aucune trace depuis?
Non.
Même par la carte bleue, on peut rien savoir?
Ben non, mais elle a rien. Elle n'a pas de carte bleue, pas de téléphone, pas d'argent, pas d'affaires, elle n'a rien. Elle était en unité fermée. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup de on ne peut pas la tracer, il n'y a rien. Donc, voilà, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle a pu quitter la France. Après, sans argent, je ne sais pas. Voilà, donc, j'essaye. La police s'en occupe, mais... Dans une grande ville comme ça.
Bah surtout ouais. qu'elle vous a prouvé que régulièrement, c'était l'étranger qu'elle avait en priorité en tête. Quoi.
Bah, oui.
Elle part très vite et très loin à chaque fois.
Hein. Et bon, je m'étais dit que je voulais appeler la Croix-Rouge pour qu'ils donnent la photo aux maraudes qui s'occupent des SDF.
Oui.
Mais je n'ai pas réussi à les joindre. Je ne sais pas si c'est possible déjà. Je cherche des solutions, mais voilà, je ne sais pas.
Vous avez redéposé un avis pour des disparitions inquiétantes?
Ah ben c'est l'hôpital en fait, c'est l'hôpital qui dépose l'avis, c'est pas moi. Mmh. Je les appelle aussi pour avoir des nouvelles, mais c'est l'hôpital qui préviendront, ils me préviendront aussi, mais c'est l'hôpital qui a déclaré la disparition.
Vous êtes toujours en contact avec votre ex-mari?
Ah ben oui, mais là il est un peu blasé en fait. Il a un peu baissé les bras, je pense.
Oui, il est inquiet quand même, j'imagine.
Ah ben oui. Il ne le montre pas, mais oui.
Et il n'a pas, lui, peut-être des contacts avec des amis de votre fille?
Des noms? Ben non.
Non, via Facebook,
ben,
pour retrouver des traces?
C'est mon fils qui a averti tous les contacts, mais bon. Ce serait un hasard. Elle n'ira pas chez les gens qu'elle connaît, puisque elle sait que ça arrivera encore. Qu'elle y retournera.
Ben peut-être ce qu'on peut déjà faire ce soir, c'est donner un descriptif physique de votre fille, si quelqu'un l'aperçoit, qu'il prévienne la police. Ou les oui. Ou je ne sais pas qui. Oui, dans ces cas-là, ça peut. Si elle est en danger, si elle est quelque part en France, c'est ça qui n'est pas évident non plus, vu son historique.
Hein. Ben oui, ben les hôpitaux, enfin, les hôpitaux sont sur le coup. La police aussi, dans toute la France, a été étendue à toute la France.
Mais voilà. Alors, au cas où, dites-moi à quoi elle ressemble votre fille physiquement.
Elle fait 1m65, elle a des cheveux longs, châtains. Elle portait des lunettes, mais elle a tout perdu, donc je ne sais pas si l'hôpital s'en est occupé, je leur avais dit. Donc elle ne voit pas grand-chose, elle n'a pas de lunettes.
Quel âge elle a précisément aujourd'hui ?
Elle a 27 ans.
27.
Je ne sais pas comment elle était habillée, ils ne me l'ont pas dit. Voilà.
Elle a les yeux marrons. Les yeux marrons, d'accord. Aucun signe distinctif, pas de cicatrice, rien de particulier ?
Non.
Écoutez, on lance l'appel. Si quelqu'un la croise, on peut au moins déjà demander d'abord qu'il prévienne la police en priorité et peut-être aussi qu'il nous appelle, qu'il nous laisse un message. Dans ces cas-là, on gardera vos coordonnées pour pouvoir vous prévenir.
D'accord. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
Vous avez un message très gentil de Nanou qui veut vous soutenir et qui vous dit « Je suis dévastée en vous entendant. Courage de tout cœur avec vous. »
Oui, il m'en faut.
Oui. Mais dites-vous quand même qu'à chaque fois jusque-là, vous l'avez retrouvée. Elle est revenue.
Oui, mais bon, le fait qu'on l'ait retrouvée au 16e étage, ça me fait un peu peur. Si elle recommence. Enfin, non, elle sait pas. Oui. On ne sait pas, parce que je pense qu'elle est dans une période haute, elle se sent capable de tout faire.
Oui, c'est ça le danger avec cette maladie-là, c'est qu'on passe d'un extrême à l'autre d'une manière très rapide. Quoi.
Oui, elle peut tomber très bas très rapidement.
Oui.
Donc, on m'a parlé de schizo-affective. C'est quoi la différence entre schizophrène et schizo-affective ?
Sincèrement, je ne sais pas. Quand j'ai vu votre fiche tout à l'heure, je me suis posé la question. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises.
Ils m'ont expliqué que c'était entre schizophrène et bipolaire. Donc, c'est très...
Oui, ce qu'il y a, c'est qu'on met beaucoup d'étiquettes aussi maintenant. Mmh. Il y en a de plus en plus. Ça ne change pas vraiment le problème de fond. Hein. À part le traitement, mais vous pensez qu'elle le prend, son traitement ?
Non, elle ne le prend pas. Plus, Déjà, je la soupçonne, j'en ai parlé au psychiatre, je la soupçonne de ne pas avoir pris le traitement, même en hôpital. Est-ce que c'est possible ?
J'allais vous dire pas plus qu'on ne peut s'échapper d'un secteur fermé, vous voyez, en théorie, oui. En théorie, on est surveillé seulement, évidemment. Comme vous dites, elle est maligne, donc si elle n'a pas envie d'avaler un comprimé, maligne. Elle le cache. Normalement, elle est supposée avoir pris son traitement, mais...
Je leur ai dit, ils m'ont dit qu'ils surveillaient bien, mais bon...
Oui, comme la sortie, oui, c'est ça le problème. En théorie, le manque d'effectifs, l'inattention quelquefois, et puis le fait qu'elle soit maligne, ça aide pas, quoi.
Ben oui, puis elle s'est renseignée sur toutes les maladies qui existaient et elle connaît très bien chaque maladie. Elle a cherché elle a voulu connaître son mal-être en consultant Internet et elle connaît tout. Et elle sait, enfin. Elle est un peu manipulatrice aussi. Donc j'avais réussi à prendre un peu de distance avec tout ça. Puis à chaque fois, il se passe un événement qui fait que...
Ça recommence. Mais dites-moi, avant qu'elle prenne ses substances et qu'elle fasse des séances de chamanisme, est-ce qu'il y avait eu des signes quand elle était jeune adolescente ?
Oui, elle a toujours été assez particulière.
Instable ?
Instable... les études, tout ça, ça allait très bien, il n'y avait aucun souci, mais bon, elle se sentait différente. À un moment, elle me disait qu'elle était, enfin, ça c'était au début aussi, hein, elle me disait qu'elle était surdouée, que c'était pour ça qu'elle n'était pas bien, qu'elle était hypersensible. Et donc je lui avais pris un rendez-vous chez un médecin qui s'occupait de ça, pour faire un test. Et elle n'y a jamais été.
Ouais.
Elle avait peur, en fait, que ce ne soit pas ça, je pense.
Et avec son frère, quelles étaient ses relations ?
Quand ils étaient petits, ils étaient très complices. Et là, maintenant, elle est aussi terrible avec lui. Donc, elle a coupé les ponts avec tout le monde, en fait.
Elle Il n'y a vraiment eu aucun moyen d'avoir un contact avec elle.
Son frère.
Oui.
Il a été la voir lors de la première hospitalisation. Il a été la voir plusieurs fois et bon, ça se passait plus ou moins bien, mais elle lui demandait de l'aider à sortir, voilà.
Et là, lui, mais... il a vraiment aucune idée d'où elle peut être.
Non. Ah ben non. Non, on ne sait pas. Moi, je la vois. C'est pour ça que je pensais que les maraudes, ça serait une bonne solution qui pourrait éventuellement la voir quelque part. Si elle est, à un moment, elle me disait qu'elle voulait être SDF. Voilà. Oui. Elle est vraiment en marge. En marge. Elle a travaillé un petit peu, mais elle était très très mal. Elle avait du mal, elle se forçait à être sympa avec les gens. Enfin voilà, c'est une longue histoire qui n'est pas finie.
Mais pourquoi vous me dites que vous n'avez pas réussi à joindre la Croix-Rouge ?
Ah non, mais parce que j'ai essayé d'appeler aujourd'hui.
Ah oui, d'accord.
C'est peut-être que j'ai essayé d'appeler aujourd'hui, ça m'est venu aujourd'hui, que c'était peut-être une solution, je ne sais pas. Si je donne la photo, peut-être que...
Oui, je pense qu'il faut creuser toutes les pistes, évidemment. Je pensais aussi à l'association Phare, vous les connaissez ?
Phare ?
Oui, comme un phare pour tous les accompagnants de jeunes qui sont en mal-être. Les parents
Je connais l'UNAFAM. L'UNAFAM.
Aussi, oui, mais il y a l'association Phare, vous trouvez leurs coordonnées sur Internet, c'est Phare comme un phare.
D'accord.
Ils sont là pour aider aussi tous les parents qui ont des problèmes avec des enfants, des jeunes en souffrance.
D'accord.
Ça peut vous aider aussi, ça. Et effectivement, diffuser des photos le plus possible par des circuits comme ça, par Internet, sur des pages Facebook, vous savez que ça fonctionne bien aussi ?
Oui, ben, je ne voulais pas en arriver là, mais si ça dure trop longtemps... Ouais.
On a Blanche qui nous dit, cette jeune fille est dans quelle ville ? Mais si seulement on le savait, Blanche, on aimerait bien le savoir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas.
Non, on ne sait pas.
Et on n'est même pas sûr qu'elle soit encore en France, c'est ça aussi.
Ben oui. Après, sans argent, sans rien, mais bon... Elle a pu rencontrer quelqu'un, enfin, elle a pu faire n'importe quoi.
Elle a probablement un réseau de copains ou de copines qu'elle sait où retrouver à chaque fois qu'elle s'en va, je pense.
Je sais pas.
Il y a des gens qu'elle doit retrouver quelque part.
Mais tous ses amis sont au courant de son état et c'est même eux qui nous ont alertés quelquefois pour dire qu'elle allait très mal et qu'il fallait l'hospitaliser. Hein. Donc, je pense pas qu'elle ira vers ses amis. Hein. Elle se veut...
Non, pas ces amis-là, mais d'autres personnes dont elle a pu faire connaissance, qu'elle doit retrouver quelque part.
Oui, sauf que ça fait plusieurs... Elle est hospitalisée tout le temps, donc je vois pas trop comment elle peut faire des connaissances, mais bon.
Ouais. En tout cas, faites jouer à fond les réseaux sociaux, parce que Facebook, ça sert aussi à ça. Si chacun relaie sa photo avec un appel à l'aide, ça fait tache d'huile très rapidement, même à l'étranger. Nous, on a passé l'annonce là ce soir, donc vous l'avez bien définie, décrite physiquement. Si qui que ce soit perçoit une jeune fille de 27 ans qui a l'air en détresse ou qui est dans la rue,
oui.
Qu'elle ait un œil vigilant sur ça, que tout le monde ait un œil vigilant sur ça. Hein.
D'accord.
Et on ne peut que vous souhaiter vraiment le meilleur, Christine. Donnez-nous des nouvelles, hein, si vous en avez.
Ben, je vous appellerai pour vous donner l'issue.
S'il vous plaît, oui.
J'espère que ça arrivera bientôt.
On est de tout cœur avec vous. Appelez les associations qui sont spécialisées dans l'accompagnement de ce genre de situation.
D'accord.
Non, ne restez pas seul pour gérer tout ça.
Okay.
Vous avez vous-même un thérapeute qui vous aide ?
Ah ben, je vais voir le psychiatre de temps en temps. J'ai un traitement, c'est le traitement qui m'aide à prendre un peu de distance.
Oui, mais ça serait bien aussi de parler.
Oui, je pense aussi.
De parler, d'être écouté et soutenu régulièrement, très régulièrement dans une période comme ça. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment le meilleur, Christine. Je croise les doigts pour que très vite on ait des nouvelles de votre fille.
D'accord, merci beaucoup.
Je vous embrasse.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.
Merci de votre appel.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Et suite au témoignage de Christine qu'on vient d'avoir sur l'antenne, on a Jean-Pierre qui vient nous appeler. Bonsoir à vous, Jean-Pierre.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire alors ?
Oh, c'était à propos de ce témoignage, parce que c'était pour donner un peu d'espoir à cette dame.
Oui.
Dans la mesure où j'ai l'histoire d'une de mes filles qui est très semblable à celle-ci et qui s'est terminée très bien, puisque maintenant elle a trois enfants et elle a trouvé, elle a réussi ses concours, enfin, pour être professeur. Donc, mais au départ, c'était pas du tout. L'adolescence qui était à l'école brillante, mais qui s'est dégradée progressivement, et liée à la prise de drogue, probablement. Enfin, ça doit avoir un lien avec. Elle s'est mise quand elle était à la fac, elle a continué. Et elle parlait à la télévision, enfin, on voit bien sûr. Elle parlait, je veux dire, à l'écran.
Oui.
Donc, il y avait des problèmes psychiatriques qui se créaient, mais c'était difficile à suivre comment elle vivait. Pourtant, elle n'était pas très loin, enfin, une centaine de kilomètres de chez nous, à la faculté. Et ça s'est dégradé, je résume. Par contre, elle gardait des contacts avec ses sœurs, surtout une de ses sœurs, et elle avait des copines qui prenaient quelques drogues, et c'était bien copine, mais on pouvait avoir un contact avec elle tout de même, ça n'avait pas eu les mêmes effets sur elle, quoi. Mmh. Et un jour, une de ses copines nous téléphone pour nous dire que ça va très mal. Il y avait eu d'autres épisodes, hein. On avait commencé déjà d'essayer de la faire soigner, mais chaque fois elle s'échappait, enfin échappait au traitement et elle s'échappait aussi à nous.
Mais quand vous dites soigner, là, il s'agissait de désintoxication ? Ou elle avait déjà une pathologie psychiatrique ?
Oui, elle avait une pathologie psychiatrique et on avait tenté qu'elle soit volontaire pour aller en clinique, pour aller à l'hôpital, mais ça n'a pas tenu compte. C'est chaque fois arrêté dans le traitement.
Qu'est-ce qu'on lui avait diagnostiqué alors ? Schizophrénie ?
Oui.
Oui.
Ça.
D'accord.
Et donc, un jour, on était en vacances et ses copines téléphonent en disant ben, ça ne va pas. Elle met le feu dans les poubelles dans son appartement, ça risque, etc. Bon. Et donc, je suis allé, j'ai trouvé un médecin difficilement, mais c'est grâce à des amis. Et ce médecin l'a convaincu, après 3 heures au moins de discussion, il a fallu d'abord que je l'empêche de sortir, sans la contraindre, mais
oui,
c'était pas facile. Elle avait des problèmes avec ses voisins, enfin bon. Donc, le médecin l'a convaincu de retourner chez nous et il m'a dit que le lendemain, je devais téléphoner à l'hôpital pour la faire hospitaliser, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai tenté de faire le lendemain matin, mais elle a pris son téléphone pour avoir un avocat. Heureusement, cet avocat, je l'ai su après, avait les mêmes problèmes qu'avec son épouse. Et du coup, il a bien compris la situation. Donc, elle a pu être hospitalisée. Et c'est là, quand même, où ça fait de l'effet, mais il y a eu encore d'autres épisodes, etc. Mais elle est restée là. Elle est quand même été sous traitement. Ce qui est gênant pour les parents, c'est qu'on ne peut rien nous dire puisqu'elle était majeure.
Oui. Mais contrairement à la fille de Christine, elle ne s'est pas échappée, la vôtre.
Non, elle ne s'est pas échappée. Oui. Mais après ce traitement, elle a encore eu des... Ça n'a pas été définitif. Il y a encore eu quelques épisodes. Mais bon, c'était pour dire à cette dame que ça s'était quand même terminé correctement après quelques années. Hein. Il a fallu encore quelques années pour que ça soit efficace.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a plus de traitement ou elle a un traitement et elle est stabilisée?
Elle a eu un traitement pendant plusieurs années. Mmh. Elle a eu été voir régulièrement un psychiatre. Mais quand j'ai lui trouvé un travail... un petit appartement, enfin une petite location, Et puis, ça l'a remis sur ses... enfin, dans une voie. C'était progressif, hein, parce qu'il y a eu des contacts. On se disait maintenant, elle aurait pu finir à Daesh, hein, mais à un moment, avec les contacts qu'elle avait. Et, mais maintenant, ben, elle est tout à fait stabilisée et elle ne prend plus de traitement. Elle va bien, quoi. Elle est tout à fait normale, on pourrait dire.
Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que la différence, c'est que la fille de Christine semble ne vouloir pas du tout se soigner. Quoi. Comment est-ce que vous avez fait pour...
C'était le cas pendant... Ben, ça a mis longtemps. Il y a eu une de ses copines qui était infirmière et je crois que c'est elle qui a su la convaincre progressivement de retourner à l'hôpital. Et c'est comme ça que ça s'est terminé petit à petit.
Un pas après l'autre. Hein,
mais elle a eu un accident, elle a conduit une voiture, elle a échappé à la mort quasiment.
Ouais. Mais vous n'avez jamais lâché prise, alors ?
Ah non. Mais d'abord, on était naïfs au départ, hein, parce qu'on ne savait même pas qu'elle se droguait, mais on n'avait jamais été confrontés à ça. Donc ça s'est dégradé pendant toute la scolarité, au lycée, à la fac, etc.
Oui. Quel âge elle a aujourd'hui ?
Voilà, presque 40 ans.
D'accord. Donc c'est quand même...
Entre, on va dire, 14 ans, 15 ans, entre la fin du collège et à la paternité de ses études à la fac, dans donc, en gros, jusqu'à 28, 30 ans, c'était pas clair.
Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous en parlez avec elle de cette période ? Est-ce qu'elle, elle en parle ?
Non, elle refuse.
Ah.
Moi, j'ai tenté, parce que j'avais quand même un peu de, comment dire, faire hospitaliser sa fille, faire enfermer en quelque sorte. Hein. C'était sous contrainte, quoi. Ils sont venus la chercher et l'emmener.
C'est violent à vivre pour vous aussi, j'imagine.
Et c'est, mais ça, j'ai jamais pu en parler, ni avec la doctoresse, qui n'a pas... elle finit par dire que c'était nécessaire, mais bon. Et ni avec elle. J'en ai tenté maintenant qu'elle va bien d'en reparler, mais elle ne souhaite pas en parler.
Bon, l'essentiel, c'est qu'elle aille bien. J'espère que ce message positif a un petit peu remonté le moral de Christine.
Voilà, c'était pour ça que je téléphonais. C'est pas, autrement, moi, je n'ai pas de soucis actuellement. Au contraire, on est très heureux.
Ben merci Jean-Pierre, c'est gentil d'avoir appelé, d'avoir partagé cette expérience avec nous.
Et elle est partie à l'étranger à un moment, elle est partie pareil, faire un tour en Turquie, etc.
Oui, vous me disiez que l'histoire de Christine a résonné pour vous, que c'était un peu similaire.
Ah oui, ça a résonné, c'était exact. Malheureusement, pour elle, en ce moment, elle est en plein dans le drame. Là, mais...
Elle est dans l'œil du cyclone, là, pour l'instant. Ouais.
Oui, donc c'était dans le but de lui dire que peut-être...
Garder espoir.
Garder espoir, parce qu'on peut s'en sortir.
Merci Jean-Pierre de ce témoignage.
Voilà.
Merci d'avoir appelé.
Bonne soirée.
Bonne soirée à vous, au revoir. C'est Sonia, maintenant, qui doit être quelque part dans les tuyaux. Sonia ? Allô, allô ?
Ah. Allô ?
Sonia, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Je retire le parallèle.
D'accord, oui. C'est mieux comme ça. Bonsoir à vous, bonsoir. Sonia.
Bonsoir.
Bienvenue sur cette libre-antenne. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ?
Eh bien, j'ai téléphoné parce que j'ai instable, dans le sens au niveau, aussi bien au niveau des partenaires qu'au niveau d'où je vis, des appartements. Il faut toujours que je change. Et je ne sais pas pourquoi d'où ça vient. Donc, je voulais un petit peu de conseils, je ne sais pas. Voilà.
Alors, comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce qui vous pousse à changer d'homme, par exemple ?
En fait, j'ai pas confiance et donc je me dis par exemple parfois quand j'étais plus jeune, parce qu'aujourd'hui j'ai 49 ans, et quand j'étais plus jeune, des fois ça allait jusqu'à un mois de relation, et je me disais oh là, ça fait longtemps, donc il faut que j'arrête, c'est moi qui ai trompé, parce que je me disais ça va pas pouvoir continuer, donc j'avais pas confiance. Et voilà, donc j'arrêtais de moi-même. Voilà, donc du coup, j'ai eu des partenaires, et sans pour autant... En fait, j'appréciais surtout les premiers moments, les débuts, quoi. Et pas les suites, enfin, pas la suite, pas les le quotidien, je veux dire, je voulais surtout vivre, comme on dit, la passion des premiers moments,
ouais.
Des premiers instants.
Et qui ne dure jamais, en fait.
Et, voilà, qui ne dure jamais. Je voulais juste vivre les bons moments, les moments présents. Et en même temps, j'avais pas confiance. Je me disais en moi, bon, la personne ne restera pas avec moi.
De toute façon, ça va s'arrêter, autant que j'arrête tout de suite.
Pardon ?
Vous disiez, de toute façon, ça va s'arrêter, donc autant que j'arrête tout de suite, c'est ça le scénario ?
Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Pourtant, bon, je suis pas une vieille fille, ça allait bien. Je veux dire, j'avais quand même des gens qui me regardaient, tout ça. Des hommes qui m'ont regardé, mais c'était en moi. Donc, j'avais pas confiance. Peut-être ça vient de mon père, je sais pas. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, j'ai jamais eu confiance en ces relations. Et au niveau de la stabilité envers les hommes, ainsi qu'au niveau des appartements. Alors, je vois pas le rapport, en même temps, vous allez me dire quel est le rapport entre la relation avec les hommes et les appartements, mais il a toujours fallu que je déménage. Alors, du coup, je me suis dit sur moi, mais je n'arrivais pas à me stabiliser.
Alors, quand vous dites toujours, c'est-à-dire depuis quel âge ? Comment ça a commencé, cette histoire ?
Ça a commencé, les déménagements, ça a commencé où ? Je vous dis, j'ai 49 ans aujourd'hui, donc j'ai commencé, j'ai toujours déménagé, je ne sais pas. Même quand j'étais à l'époque, j'ai vécu en région parisienne, je suis dans le sud. Et même en région parisienne, bon, j'allais dans le sud, je revenais, je repartais, je redéménageais. J'avais quoi, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Ça n'a jamais duré, quoi. Je prenais un appartement pour 3 mois, 6 mois, je déménageais. Enfin, ça n'allait jamais au-delà. Et après, j'ai mon premier enfant, et pareil, il a fait des écoles, où je suis en maternelle, comme je disais tout à l'heure, à l'antenne. Avant que vous me preniez à l'antenne. Donc en maternelle, il n'y a que 3 ans de maternelle, il a fait 3-4 écoles en maternelle, moi j'ai dû en sortir. En primaire, pareil, enfin, je suis installée, je ne sais pas de vous dire ce que c'est.
Symboliquement, la maison, ça représente ce qu'on est profondément soi-même.
Ouais.
Donc il y a un lien, forcément, il y a un lien entre tout ça.
Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Alors vous me parliez de votre papa, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui petite ? Vous avez grandi dans quel genre de famille, quel type de famille ?
Alors, mon père, c'est un Kabyle. Enfin, il était Kabyle, il nous serrait. Mais après, en même temps, il était ouvert. Je veux dire, bon, Kabyle, c'est pas musulman, c'est manger du porc, il était ouvert, etc. Quoi, je veux dire, c'est pas comme ça, franchement, franco. Donc, il était ouvert. Bon, il avait une certaine culture, il lisait beaucoup, tout ça. Ça n'empêchait pas qu'il avait quand même son côté, papa, quoi. Papa musulman, alors qu'il n'était pas musulman. Je veux dire, il nous serrait quand on était quatre filles. Hein,
vous dites qu'il vous serrait, ça veut dire qu'il était sévère ?
Il fallait pas. Ah oui, oui. On ne pouvait pas citer un garçon, il nous surveillait, tout ça.
Éducation stricte, quoi.
Voilà. Mais pour autant, on était quand même ouvert. Il y avait une culture française, il y avait la française. Et, je veux dire, franco de porc, comme dirait l'autre. Je veux dire, il mangeait du porc, il buvait de la bière. Il était serré, quoi. Dans la société française, on va dire. Mais de côté, il avait. C'était paradoxal. Donc voilà, il nous serrait. Et donc ça fait que c'est peut-être pour ça que je me dis, au niveau des garçons, on n'a pas pu juste sortir avec des garçons, comme les jeunes d'aujourd'hui, ou même d'avant, qui avaient pu avoir des relations. C'est peut-être pour ça que la confiance en moi s'est installée. Et puis après, bon, au niveau des appartements, tout ça, des maisons. Et comme vous disiez, la maison, c'est nous, quoi.
Et votre maman était comment ?
Ma maman est italienne. Et donc elle est baptisée, tout ça. Si mon père était un peu soumise, parce qu'elle n'avait pas le choix en même temps, hein, c'est ça, ou alors elle s'en prenait, quoi, on va dire. Elle travaillait. Mais je veux dire, par là, elle était un peu soumise à mon père, par la force, on va dire. Elle était obligée de se soumettre à la force. Mais sinon, après, c'est catholique, enfin, je veux dire, elle était baptisée, c'est une italienne, je veux dire, c'est pas la même mentalité. Et elle a connu tout jeune, enfin, je veux dire, elle avait 17 ans quand elle a connu.
Mm-hmm.
Elle avait quelques années de plus, hein, 7 ans de plus.
Mais il y avait une harmonie à la maison, comme il y avait de l'amour ?
Non. Il buvait, et, enfin, je ne vais pas tout raconter à la radio. Bon, ça a
et
été...
Oui, mais c'est important, ça fait partie de votre histoire. D'accord. Et c'est le socle sur lequel vous vous êtes construite, en
D'accord.
réalité.
D'accord, alors je vais vous dire. Donc, il buvait, bon, ouais, elle n'était pas sympathique avec elle, hein, vous voyez ce que je veux dire, avec la boisson. Donc, obligé de se soumettre, pourtant, bon, c'est une bonne mère de famille, il rentrait à la porte du matin, celui qui mange, ben, ça ne voulait pas le faire parce que travailler le matin très tôt, obligé de le faire et puis de faire son repas à n'importe quelle heure. Ou alors, il casse tout à la maison et puis voilà, les violences. Et oui, il y a beaucoup de violences à la maison. Ouais.
Est-ce que vous avez pris des coups aussi ? Moralement, moralement ou physiquement ?
Ouais. Moralement beaucoup, j'étais très jeune. Et physiquement, ouais, un petit peu, quoi.
Parce que dans votre histoire, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une fuite, il y a une fuite permanente.
Oui, tout à fait, parce que voilà, je n'arrive pas à tenir en place, il faut toujours m'en aller.
Et ce qui est intéressant de comprendre, peut-être, dans votre histoire, c'est qu'en étant petite fille, en vivant dans un environnement comme ça, vous n'avez pas pu fuir, les premières années en attendant. Vous avez subi. Et quand on est une petite fille et qu'on subit une ambiance de violence comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de foutre le camp. Ou en tout cas de fuir pour se protéger. Alors quand on est tout petit, on peut se cacher sous son lit, on peut se cacher sous la table, on peut se cacher en mettant ses bras pour se protéger des coups, mais on ne peut pas faire grand-chose de plus.
Et on peut... Moi, ce que je faisais, c'est... Oui, allez-y.
Non, racontez-moi ce que vous faisiez.
Bah, en fait, comment je m'isolais, c'est que je m'enfermais dans ma chambre, la lumière éteinte et j'écoutais la musique, la fenêtre ouverte. C'était la fenêtre ouverte, je regardais le ciel, j'écoutais la musique et je regardais le ciel, quoi. C'était mon échappatoire. La porte de ma chambre, c'est ma maison, mon échappatoire, on va dire. Et la fenêtre ouverte avec la musique et je regardais le ciel. Voilà, c'est ça, pour sûr.
Et oui, évidemment. Et
ça criait au salon, ça criait, voilà.
Et c'est comme si vous avez gardé en fait ce comportement de fuite, de jamais vous sentir vraiment en sécurité, en confiance, ni avec quelqu'un, ni quelque part. Parce que finalement, vous n'étiez même pas en sécurité dans votre propre maison, petite.
C'est ça, c'était pour ça que je partais tout le temps.
Pour vous, la maison, c'est pas synonyme de sécurité. Pas encore.
C'est pour ça.
Est-ce que vous avez travaillé avec une thérapeute là-dessus ?
Non.
Et ça me paraît très important parce que sinon vous allez reproduire ce schéma-là éternellement. Cette fuite en avant, ce manque de sécurité, vous l'avez gardé depuis que vous étiez toute petite. J'ai pas confiance en les hommes. Bah oui, papa est violent, papa me frappe. J'ai pas confiance dans les hommes, j'ai pas confiance en moi parce que j'en ai souvent parlé sur cette antenne. Un petit enfant qui vit des situations comme ça, inconsciemment, il se dit toujours un petit peu que c'est de sa faute. Bien sûr que c'est pas le cas du tout. Mais quelque part, un enfant se dit toujours si j'étais vraiment aimable, si papa m'aimait vraiment, il serait pas comme ça.
Ce qui est juste... Moi, c'était pas dans ce sens-là, parce que des fois, il m'aimait bien quand même.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est inconscient comme attitude.
Ouais.
Mais quand on a un papa qui nous rejette, parce que quelque part, la violence est un rejet, on n'arrive pas à trouver sa place. Et donc, en n'arrivant pas à trouver sa place, on n'arrive pas à construire son estime de soi et sa confiance en soi.
Oui, c'est ça.
Donc, vous n'avez pas réussi à trouver qu'une... Pour vous, la maison, ce n'était pas un endroit sécuritaire. Un homme n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Et donc, vous avez gardé ce schéma-là qui est une sorte de fuite en avant permanente, en réalité.
Tout le temps.
Mais oui.
Tout le temps. Mais c'est carrément ça au niveau de la maison. Vous avez bien dit, parce que ça m'éclaire. Et j'en ai jamais pas à personne. Parce que même mes proches me disent, mais pourquoi t'en as pas marre? T'as pas envie de te poser un jour et tout? Et je disais, mais il y a nulle part où je suis bien, quoi. Et vous avez, en fait, j'ai bien compris, vous avez bien défini le sens par le fait de ce que j'ai vécu à la maison.
Ça, et puis quand je parle régulièrement des blessures émotionnelles de l'enfance, là, ce que vous rejouez, c'est la blessure de rejet. C'est-à-dire que vous débrouillez pour être systématiquement dans des situations de rejet. C'est-à-dire que vous rejetez les hommes avec qui, finalement, ça ne dure jamais. Vous rejetez les appartements avec lesquels ça ne marche pas non plus. Et vous vous rejetez plus ou moins vous-même en n'ayant pas confiance en vous, en fait.
Oui, c'est ça, surtout ça.
Et donc, ça
parce que les hommes...
Oui.
Non, c'est moi qui veux vous écouter. Allez-y.
Non, je vous disais, ça me paraît vraiment extrêmement important que vous trouviez un thérapeute pour travailler là-dessus, pour éviter de continuer à fonctionner comme ça, parce que c'est évident que vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans.
Oui, mes enfants aussi, ils sont obligés de changer d'école à chaque fois. J'ai fait beaucoup d'aménagements, je vous dis, des fois, deux fois, trois mois, deux mois, trois mois, je veux dire. Et voilà, ils n'arrivent pas à se stabiliser. Et voilà. En fait, la maison, ça, c'est... ce que j'ai vécu dans petite, quoi.
Et rapprochez-vous de votre téléphone. Ah voilà, je vous avais
perdu.
Oui, je vous entends mieux maintenant.
Je suis là.
C'est important parce que vous méritez mieux dans la vie. Vous n'allez pas traîner ça toute votre vie quand même.
Ben oui.
À un moment donné, on vit avec ce que le passé nous a obligé à garder un moment, certes, mais un moment seulement. Un jour, on peut se dire, c'est bon, ça va, ça suffit, maintenant je passe à autre chose.
Mais là, ça fait longtemps, ça fait des années, quoi. J'ai 49 ans, j'ai... pourtant, j'ai vécu, je vous ai dit, j'ai un enfant de 21 ans, un autre de 12 ans, voilà, donc presque 10 ans de différence. Jamais réussi à me stabiliser, pas confiance, ni rien. Puis pareil, les déménagements. En fait, on relie la famille avec la maison. La maison que je n'arrivais pas à garder, hein, c'est la famille que je n'arrivais pas à garder. J'aurais pu faire ma vie, hein, mais j'ai pas réussi. Enfin, j'ai pas réussi parce que j'ai pas voulu.
Vous avez quand même réussi à faire des enfants, c'est déjà
ouais,
une belle réussite. Parce que
j'en voulais, j'ai joué à la poupée très longtemps. Toute petite, j'avais ma poupée dans le lit, je la préparais avant de me réveiller à le déjeuner. J'ai joué à la poupée longtemps, j'étais très câline avec. J'habitais dans une cité en région parisienne, avec les filles de la cité, des petites, toujours un mot. Enfin, j'ai toujours eu le côté maternel. Et j'en ai voulu. Et après, par contre, j'ai creusé ce qu'il y avait pendant des années parce que je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Je ne sais pas si c'était écologique, je ne sais rien. Et j'ai cru que c'était terrible, parce que ni préservatif à l'époque, hein, mon époque, il n'y avait pas. Enfin, si, mais bon, c'est pas comme aujourd'hui. Mm-hmm. Pas de préservatif, pas de pilule, rien. Et je me disais, bon, hein, je suis stérile, et bon, j'en pleurais parfois. Et donc, ça me renforçait encore plus dans le fait que, voilà, je voulais materner, j'aimais ça, j'en ai souffert. Et voilà, alors maintenant... Enfin,
et comment ils sont arrivés alors, ces deux-là?
Par hasard.
Naturellement,
le premier. Oui, naturellement, oui, naturellement, oui. Bon. Naturellement. Pas de...
Et là, ils ont quel âge?
Alors, le premier a 21 ans, et le second, 10 ans après, quoi, 9 ans et demi après, il vient de faire 12 ans.
Ce serait peut-être intéressant...
Donc, pas le même père.
Ce serait intéressant de parler avec eux de votre histoire. Leur dire ce que vous avez compris, leur expliquer ce qu'on s'est dit ce soir.
Ouais, mais le petit, il écoute, là, il a pris son casque, je voulais qu'il dorme, parce qu'après, il y a l'école. Le petit, il écoute avec son téléphone au salon. Je ne voulais pas qu'elle écoute tout, mais elle écoute. Et ouais, leur expliquer, c'est-à-dire, je ne voulais pas qu'elle écoute en fait. Leur expliquer quoi?
Leur expliquer que vous êtes en train de comprendre qu'effectivement, vous rejouez une blessure de rejet. Vous rejouez une fuite en avant parce que vous n'avez pas trouvé la sécurité en étant petite. Ouais. C'est important aussi qu'eux comprennent pourquoi vous fonctionnez comme ça.
Oui, parce qu'ils se posent la question, maman, pourquoi tu veux encore déménager? Pourquoi tu veux encore déménager?
C'est bien pour ça que je vous dis ça. C'est bien pour ça que je vous dis ça, d'accord. Sonia. Et en plus, le fait de leur en parler, en vous entendant leur en parler, c'est comme quand vous m'en parlez ce soir, vous prenez conscience de certaines choses. Vous avez vu ça?
Ouais. Ouais, j'ai compris, tout à fait. J'ai pris conscience et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé.
C'est pour ça que c'est tellement important de parler.
C'est pour ça que j'ai voulu téléphoner pour voir s'il y avait une solution. Là, franchement, prendre un rendez-vous chez un thérapeute, attendre 2-3 mois, ce soir, j'avais pas compris l'histoire de la maison, quoi. Bon, l'histoire des hommes, j'avais compris par rapport à mon père, tout ça. Mais la maison, je n'avais pas compris. En fait,
c'est un sentiment d'insécurité, de manque de voilà. Confiance qui vous pousse à fuir tout le temps.
C'est ça. C'est ce que j'ai compris.
Et à un moment donné, vous allez travailler avec un thérapeute sur tout ça. Restaurer la confiance en vous et vous allez arriver à vous poser. Être bien, suffisamment bien avec vous-même pour être bien chez vous et ensuite bien avec quelqu'un.
Ouais.
C'est dans ce sens-là que ça se travaille.
Surtout bien déjà, bon, quelqu'un, bon, c'est bien, ok, mais après, bon, c'est surtout être bien à la maison. Trouver où me poser, parce que je ne sais pas où me poser, à chaque fois que je déménage, je suis de nulle part.
Oui, mais c'est dans ce sens-là. Vous avez commencé cette conversation en parlant de votre relation avec les hommes, puis votre relation avec les maisons, les appartements, puis avec vous-même. Voilà. Et en fait, c'est dans l'autre sens que ça va se reconstruire. C'est retravailler la relation avec vous-même, la confiance en vous, puis la stabilité dans votre maison, puis ensuite la stabilité dans vos relations.
Et surtout la maison, j'ai compris, c'est le fait que, comme je vous disais, c'est mes parents qui disputaient. Et je restais dans ma chambre, je m'enfermais et tout ça. Donc, avec la fenêtre ouverte, la musique, tout ça, dans le noir, tout ça. Ouais, c'est vrai que je n'étais pas non plus en sécurité, donc c'est pour ça que je n'ai jamais pu me poser.
Vous savez, face à un stress important quel qu'il soit, notre cerveau primaire, le reptilien, n'a que 3 modes de fonctionnement. Tous autant qu'on est, tous les êtres humains sur Terre ont les mêmes modes de fonctionnement. Face à un stress, il y en a 3. L'attaque, l'inhibition ou la fuite. Vous avez pris la fuite de manière symbolique quand vous étiez en train de mettre la musique à fond la caisse en ouvrant la fenêtre.
Ouais.
Et de manière réelle ensuite en prenant la fuite dans chaque situation. C'est une réaction au stress. Et d'ailleurs, quand on vous entend, je pense qu'il y a chez vous encore beaucoup de stress. Hein.
Ah oui, j'ai stressé, je suis speed. Encore là, je suis calme ce soir parce que je suis à la radio. Mais je suis speed, je suis stressée, ouais.
Et, oui.
Ouais.
Et donc, c'est comme si une partie de votre cerveau, en réaction à cette situation de violence, s'était mis en mode panique, en mode warning, si vous voulez, en alerte rouge, et que cette alerte rouge, elle dure depuis des années, des années et des années. C'est comme si, comme si une partie de vous n'avait pas intégré le fait que le calme maintenant est revenu. Vous êtes toujours en mode warrior, si je peux me permettre cette image.
Oui, à chaque fois, on me dit c'est de speed et tout ça. Alors, j'aime pas speed parce que bon, au bout d'un moment, à mon âge, il faut se poser, quoi. Je dis non, je suis pas speed. Alors, du coup, je ralentis tout ça. Mais c'est vrai que je suis speed, quoi. D'ailleurs, je suis très belle. Hein, maintenant, j'ai maigri avec le speed, le stress. Enfin, j'ai perdu du poids, quoi.
Vous êtes en mode alerte rouge alors que la guerre est finie.
Ouais, c'est vrai. Depuis des années, ouais. Ouais, la guerre est finie parce que j'ai eu des enfants, je me suis posée entre-temps. Ouais, c'est ça. Donc, je vais à un thérapeute, hein. En gros, c'est ça.
Ça me paraît vraiment important.
Je crois, ouais.
Il suffira de pas longtemps, vous savez, pour vous libérer de tout ça et vous offrir un avenir léger, posé, serein.
En tout cas, j'imagine, parce que rien qu'avec la conversation ce soir, déjà, ça m'a un petit peu ouvert l'esprit, quoi. Enfin, parce que je n'avais pas compris tout ça, quoi. Au niveau de la maison, surtout pour les hommes. Bon, les hommes, j'avais compris depuis très longtemps. Pas confiance par rapport au père, tout ça, qui nous laissait pas sortir, tout ça, ok. Mais, voilà. Mais par rapport à la maison, j'ai pas compris. Donc, rien que ce soir, déjà, j'ai compris une partie. Donc, j'imagine que si je vais à un thérapeute, ça va aller très vite, quoi.
Je pense que vous êtes prête à vous offrir enfin le droit d'être bien, d'être heureuse, en sécurité, avec vous-même, dans votre maison et avec les autres.
Surtout, ouais. Surtout pour les enfants, parce que j'en ai marre de déménager. Bon.
D'accord, Sonia.
Très bien. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de m'avoir reçu.
Merci de votre confiance et merci de votre appel.
Merci. En tout cas, je vous écoute tous les jours. Je suis à manger à la cuisine, je vous poste.
C'est gentil.
Je vous écoute tous les jours.
Je vous embrasse et j'embrasse votre fils qui est à l'écoute quelque part, là.
Oh, oui, il est au salon. Je vous embrasse aussi. Merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
Bonsoir. En tout cas, je vais prendre les nécessaires. Vous m'avez beaucoup aidé.
Prenez bien soin de vous, tant mieux. Merci.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1.
Il me reste juste un peu de temps pour vous accueillir, Caroline. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci
oui,
d'avoir patienté.
Il reste pas beaucoup de temps, mais c'est. Ouais, ben, je vais essayer de faire assez vite. Donc, j'avais déjà appelé. Je sais pas si c'est. Donc, c'était pas avec vous. Donc, voilà. Moi, je suis. Bon, moi, ça me fait penser à la personne là qui vient de partir, là, juste maintenant. Elle déménage toujours. En revanche, moi, ça fait 45 ans que je suis dans le même appartement.
Ah.
Donc, déjà ça, et j'ai 73 ans, deux enfants et quatre petits-enfants, dont j'ai toujours le même mari, puisqu'on a fêté nos 50 ans de mariage.
Donc, vous êtes plutôt dans une ultra-stabilité, vous.
Voilà, moi, c'est voilà, justement. Donc, oui, moi, je suis assez fidèle. Mais la preuve, c'est que oui, j'ai été fidèle. Hein, donc, je peux le dire. Oui, je suis assez fidèle, mais je suis d'un caractère changeant, assez fantaisiste, et je suis comment vous dire, un peu plutôt artiste. Vous voyez, j'aime l'art, je suis secrétaire de formation, mais je n'ai pas travaillé. Voilà, le grand problème, c'est un choix que j'ai fait. Hein. Je n'ai pas voulu travailler. Enfin, j'ai essayé parce que j'ai eu mes enfants 7 ans après le mariage.
Combien d'enfants vous avez
eu ? Je suis mariée à 23 et j'ai eu mon premier enfant à 30 ans, donc c'était formidable. Là. Un premier enfant à 30 ans, on est épanoui, tout. Et puis le deuxième, ce n'était pas désiré. Je n'avais pas pris la contraception alors qu'on me l'avait donnée. Hein. Et mon mari, je me suis fait avoir. Il m'a dit, oh, tu ne crois rien, je vous rappelle les règles. Bon. Et paf, il y en a qui ont des problèmes à avoir des enfants. Moi, ça marche tout de suite, très rapidement. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Hein. Mm-hmm. Puisque j'ai eu un garçon et une fille.
Ah, le choix du roi, en plus.
Voilà. Et en fait, mon mari voulait une fille, mais il ne me l'avait pas dit. Vous voyez, qui préférait une fille. Donc le premier, c'était un garçon, et moi j'étais très heureuse d'avoir un garçon, mais j'aurais bien accepté aussi la fille. Hein. Mais disons que lui, c'était vraiment la fille. Et on le voit pendant des années, sa fille, depuis qu'il a eu donc notre fille. On a des enfants charmants, hein, et des petits-enfants, mais alors magnifiques, ils sont formidables, hein, les quatre. Deux garçons, deux filles. La fille a deux garçons, et le fils a deux filles,
d'accord.
12 ans, 8 ans, 10 ans et 4 ans. Alors, le problème, c'est que mon mari, quand je l'ai épousé, j'avais vu qu'il était très dur, très rigide. Bon, ça se voit, hein. Quand on sort avec un garçon, je l'avais vu. Mais quand même, j'étais amoureuse de lui, à 29 ans. Je suis sortie avec lui quand j'ai perdu mon papa. Et j'ai eu une enfance très choyée. Fille unique, papa, maman, vous voyez, toujours avec eux.
Ouais.
Et je ne sortais pas avec les garçons alors que j'étais très sollicitée, même à 12 ans, 10 ans. Et je ne faisais pas comme mes copines. Moi, je sais pas. C'est pour ça que je me sens toujours en marge. Parce que je ne trompe pas mon mari, parce que, alors que j'aurais pu, parce que le sexe, c'était pas, ça n'a pas été vraiment terrible, loin de là, dès le début. Hein. Et maintenant, il a un cancer de la prostate. Moi, j'ai vraiment le bouquet final, le bouquet complet. Et je viens de perdre ma maman en janvier, qui avait 90 ans. Je me suis occupée d'elle, parce que je me suis dit, maman, gâtée, tout ça. Et maman était veuve à 43 ans, donc papa, il avait 46. On vient d'une famille d'ouvriers, c'est important de le dire, mon mari aussi. Mais il est cadre supérieur, il a fait une bonne étude, il est très intelligent. Mais justement, il me dénigre tout le temps. Alors, il me donne des complexes. Et moi, je n'ai pas confiance en moi, parce que maman m'a toujours dit que j'étais une nulle. Ouais, depuis c'est... jeune, elle disait ça.
Oui, ça aide pas, c'est sûr.
Oui, et je ne sais pas pourquoi elle disait ça, alors que justement, je le répète à mes amis, jusqu'en troisième, celles qui m'ont connue, ils m'ont dit, mais j'ai pas le souvenir que tu étais une mauvaise élève. Voyez, enfin, j'étais moyenne, je ne peux pas dire. C'est vrai que je regardais beaucoup la télévision, mais comme elle travaillait, maman travaillait beaucoup, elle a fait le contraire de, enfin, j'ai fait le contraire d'elle, justement, peut-être par réaction. Hein. Elle ne s'occupait pas de moi, en fait. J'étais toujours chez ma grand-mère. Elle n'avait pas le temps. Alors, j'arrivais de l'école, j'entendais avec sa machine à coudre, ni elle me regardait mes devoirs, ni mon emploi du temps, ni voyez, voilà, j'étais pas cadrée. Mon papa, qui avait pas fait d'études, mais qui était quand même intelligent, il lui disait tout le temps, mais laisse-la, laisse-la. Quand j'étais une fois, j'avais été avant-dernière, et elle commence à crier, elle avait dit, j'avais pas eu la moyenne, mais il vaut mieux être avant-dernière que dernière, voyez. Et la maman, et ça m'est resté, parce que cette pas confiance en moi, et que j'ai donc un mari dominant et narcissique, pervers, je dirais. Et je l'ai su, ça qu'il était pervers, il est tellement manipulateur que j'ai eu deux dépressions nerveuses, mais je n'arrivais pas à le capter, parce que moi, je suis nulle en psychologie, vous voyez, je suis très franche, je suis très ouverte. Et lui, il est très, tout le contraire. On est vraiment, nos amis, ils en rigolent, ils en rient, parce qu'on est vraiment les opposés. Lui, très, vous voyez, organisé tout. Et moi, tiens, je vais faire ça, je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire, vous voyez. Ça me joue des tours, mais en revanche, moi, je suis dans ma bulle, quoi, vous voyez.
Et pourquoi est-ce que vous m'appeliez ce soir, Caroline?
Alors, je vous appelle parce que, justement, il me mène une vie d'enfer, quoi. Il me dénigre tout le temps, je dois être toujours de son avis. Je dois pas, quand je regarde la télévision, je vais là, dans ma chambre, parce que lui, il a le salon, alors que l'appartement, en plus, il est à moi, mais enfin, on est mariés sur la communauté. Enfin, j'ai hérité de l'appartement, il a pris les affaires qui me reviennent de ma mère, parce qu'elle est décédée, donc il me prend tout, il me fauche, vous voyez, des trucs, il s'achète rien, mais moi, j'achète beaucoup, hein. Voilà, forcément, je suis obligée de me faire des plaisirs, hein. Parce que franchement, sinon, je deviens encore dingue. Je fais une troisième dépression.
Et pourquoi vous acceptez?
J'ai plus de médicaments. Mais justement, je voulais vous avoir, mais ça va être bientôt l'heure, justement, je me dépêche. Parce que j'ai vu un neuropsychiatre pendant des années qui m'a sauvée. À 38 ans, une dépression avec mes enfants, 8 et 6 ans. Une maman qui ne pouvait pas m'aider, une belle-mère, je ne vous dis pas comment elle était. Vaut mieux pas. Qui vient de
Vous savez quoi, Caroline? Je suis en train de me rendre compte que ça va être compliqué, parce qu'effectivement, on n'a pas assez de temps.
Et oui.
Est-ce que demain soir, vous êtes dispo pour qu'on reprenne cette conversation toutes les deux?
Oh ben, très volontiers.
Parce que là, je ne vais pas pouvoir en 45 secondes vous écouter et vous conseiller.
Je suis obligée de vous expliquer tout.
Non, mais c'est très bien. On va dire qu'on a fait connaissance ce soir, c'est déjà bien.
Très bien.
Et si vous êtes d'accord, Hassan et Amandine vous rappellent demain soir et on poursuivra cette conversation pour aller plus en profondeur dans votre histoire. D'accord?
Avec plaisir.
Alors, le rendez-vous est pris, je vous dis à demain soir.
D'accord.
Et je vous embrasse.
Bonsoir.
À demain. Et oui, ça se termine déjà, c'est vrai que ça passe toujours aussi vite. Merci. Merci à tous ceux qui sont venus ce soir partager des moments, des morceaux, des passages de leur vie. Caroline, Sonia, Jean-Pierre, Christine et Jean-Olivier, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé aussi par SMS. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h pour de nouvelles confidences. Et je vous quitte avec cette citation. Quand on est allé si loin qu'on ne peut plus faire un pas de plus, on a seulement fait la moitié de ce qu'on est capable de faire. Je vous laisse méditer là-dessus, passez une bonne nuit et à demain.